19 sont des mots qui font très peur ensemble, et la meilleure façon de s'en sortir, c'est tout simplement de ne pas sortir.
Un bon conseil. Merci Stéphane Stage-Lacroix pour ces bons mots. Évidemment, un bon conseil à suivre. Effectivement, il y a encore des gens qui ont de la difficulté à comprendre la façon dont se transmet ce virus. Et on trouvait que c'était important, puisque vous m'envoyez beaucoup de questions, de commentaires là-dessus, de revenir sur ces points avec un virologue. Il est professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Le docteur Marc-André Langlois est avec nous. Bonjour.
Bonjour, une belle chanson.
Oui, on essaye quand même de garder le moral, hein, docteur Langlois. Je pense que c'est important. Hier, il y avait... Alors, on va donner l'occasion à nos auditeurs de vous poser leurs questions. Je donne nos numéros 514-790-9850. N'hésitez pas à nous appeler pour des questions de virologie. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Donc, beaucoup de gens me demandaient encore ce matin, hier également, un auditeur qui avait une question très spécifique. Il voyait le printemps arriver. Hein. Aujourd'hui, c'est le printemps, ça a l'air. L'été, ça en vient éventuellement. Ça, c'est des choses qui ne changent pas. Il s'inquiétait que les moustiques puissent être un vecteur de transmission. Donc, c'est cette transmission qui serait peut-être possible par le sang. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Marc-André Langlois?
Non, pas du tout.
Bon, voilà.
C'est un virus respiratoire. Donc, c'est un virus qui rentre par les voies aériennes. Ce n'est pas un virus qui est transmis par le sang. Donc, pour qu'un moustique soit un vecteur, il faut que le virus puisse survivre dans le moustique, puisse se répliquer, puis il n'y a aucune évidence que ce virus-là se transmet de cette façon.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est clair pour vous, comme virologue, les insectes ne peuvent pas nous transmettre la COVID-19.
Les moustiques.
Les moustiques.
Les autres insectes, on ne sait pas, ça ne devrait pas, ce n'est pas des vecteurs pour la transmission. Présentement, qu'est-ce qui transmet le virus, c'est les autres humains.
Voilà, bon, ça c'est clair. On va revenir à la transmission humaine. Restons un petit peu sur les animaux, les insectes, les animaux. Bon, on a parlé du le fameux Zika là, qui se transmettait via les moustiques. Est-ce que ça peut être une éventualité, vous pensez ça?
Non, pas pour ce virus-ci. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour les insectes. Ça ne fait pas partie du cycle de vie de ce virus-là.
On a dit également que c'était possible que ça nous vienne d'une chauve-souris qui aurait éventuellement passé ça à un autre mammifère qui l'aurait éventuellement passé à l'humain. Cette chaîne-là, c'est la plus probable pour vous?
Absolument. Donc, les chauves-souris sont ce qu'on appelle des réservoirs d'un grand nombre de virus. Pas juste le coronavirus, c'est le réservoir naturel pour l'Ebola, c'est le réservoir naturel pour le virus de la rage. Et aussi, c'est le réservoir naturel pour pratiquement 40 espèces de coronavirus. Donc, nous savons par la séquence génétique du virus qui circule présentement que c'est un virus qui a eu ses origines dans la chauve-souris.
Voilà. Beaucoup de gens me posent des questions par rapport à leur animal de compagnie. Comment peut-on les rassurer par rapport à leur chien, par exemple?
D'accord. Donc, je vais discuter du seul cas dont moi je suis au courant. C'est un individu qui était infecté de COVID-19 à Hong Kong.
Ouais.
Il paraîtrait qu'il a transmis le virus à son chien. Donc, les analyses ont été faites sur le chien. On a pu détecter les séquences génétiques du virus. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que le chien n'a pas développé des anticorps contre le virus. Ça veut dire que cette infection-là, le chien n'a pas vraiment été infecté par le virus. On a pu détecter le virus, mais il n'y a pas eu d'infection proprement dite. Donc, c'est encore un sujet de débat.
Okay.
Si on peut infecter son animal de compagnie, le chien, le chat ou hamster, il n'y a pas encore de bonnes évidences de ça. Ça fait que pour l'instant, ça serait non, la réponse.
D'accord. Parce que Valérie, une question là-dessus complémentaire. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir, mon frère revient d'Europe, puis il sent qu'il y a des symptômes, puis je voudrais aller chercher le chien. Je veux juste m'assurer de ne pas contaminer personne. Comment je devrais procéder?
Pour aller le chercher?
Oui.
Donc,
mais c'est pas le chien le problème ici, c'est plus votre frère qui revient d'Europe, là.
Non, j'ai mal. Je pouvais pas. La ligne a coupé.
Ah, pardon. En fait, le frère de Valérie revient d'Europe, donc ça fait moins de 14 jours, Valérie, que votre frère est revenu. Oui. Bon, il y a un chien. Pourquoi vous voulez aller chercher son chien? Parce que peut-être pas une bonne idée, là, à moins que vous ayez. Là, parlons de la distanciation, là, c'est ça.
Lui a des symptômes.
Ouais.
Alors,
OK. Ben le problème, c'est que lorsqu'une personne est infectée, cette personne-là va éternuer, va tousser et va propager le virus par gouttelettes partout autour de lui.
Ouais, ouais.
Si le chien est à proximité, il va éternuer sur le chien, il va tousser sur le chien. Le chien ne sera pas nécessairement infecté, mais le chien va avoir probablement des particules virales dans
son
poil.
Sur le poil, oui, voilà.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on peut
et
l'attraper à la rigueur.
Le chien va agir comme vecteur pour la transmission du virus, comme n'importe quoi d'autre qui sera en contact avec cet individu-là.
Le chien devient une surface, finalement, docteur Langlois. C'est un peu ça.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Donc, pour Valérie, on lui conseille de laisser le chien chez son frère, puis de ne pas se...
Autant que possible. Si c'est pas possible, à ce moment-là, il faudrait prévoir, essayer de laver le chien avec du savon, lui donner un bon bain.
OK.
Avant de partir, puis j'imagine en revenant à la maison, peut-être laver deux fois.
Mais il faut faire très attention parce que essayer d'imaginer si le chien est recouvert de virus, il va falloir faire attention de ne pas se contaminer soi-même. Donc, peut-être demander à la personne qui est infectée de faire un premier lavage. Ensuite, il va falloir faire attention.
Mais sincèrement, si je peux me permettre, docteur Langlois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans un cas comme ça, moi, je dirais à Valérie, vous savez que votre frère a des symptômes, qu'il revient d'Europe. À moins d'une urgence nationale qu'il faut absolument sortir le chien de cette maison-là, n'allez pas vous mettre dans une situation à risque. Là. Je fais juste rappeler. Hein, êtes-vous d'accord, docteur Langlois?
Absolument. Absolument.
Oui, je fais juste rappeler le gros bon sens de François Legault puis de Horacio Arruda ici. Quand on voit quelqu'un qui a des symptômes, quand on sait qu'une personne a des symptômes, on évite le contact avec cette personne-là. On doit l'éviter entre nous, là, d'où l'importance de rappeler même la limitation des déplacements entre les régions. Là, on parle peut-être d'un confinement possible du monde à Montréal. On nous a dit non, ça ne sera pas pour l'instant, mais Horacio Arruda confirmait ce matin à mon collègue Paul Arcan qu'on pourrait peut-être un jour en venir à ça, puis ce jour-là est peut-être plus proche qu'on le pense. Fait que, si vous savez qu'il y a des gens qui ont des symptômes, sincèrement, les amis, allez-y pas, là, restez chez vous tranquille. Voilà, nous allons aller à la pause.
C'est vraiment juste en cas de force majeure, si tu es hospitalisé.
Ben, même là, sincèrement, à moins de vouloir aller à la rencontre du trouble. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va parler aux questions en ce qui concerne la transmission humaine. On vient d'aborder la question des animaux et entre autres des moustiques. On vous l'a bien dit, ce n'est pas une transmission qui se fait par le sang, c'est vraiment par les gouttelettes. Et celles-ci peuvent se ramasser sur des surfaces. Là-dessus, on n'est pas sûr. 3 heures, 30 minutes, on a entendu du 12 heures. On va revenir là-dessus et vos questions après ceci. Notre spécialiste, le docteur Marc-André Langlois, est virologue et professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il est là pour répondre à toutes vos questions entourant la transmission de la COVID-19. Beaucoup de questions, entre autres, en ce qui concerne la quarantaine. Édouard, vous avez d'ailleurs presque terminé votre quarantaine, ou c'est ça? Hein?
Oui, bonjour Isabelle, bonjour docteur Langlois.
Et là, vous voulez savoir comment va-t-on vivre la suite, c'est ça? Hein?
C'est exact. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé au Québec le 6 mars, puis aujourd'hui, je finis ma quarantaine.
Ouais.
J'ai pas eu de symptômes. Chez moi et ma femme, j'ai deux enfants aussi. On n'a pas eu de symptômes. Mon petit garçon a comme un petit rhume, mais il n'a jamais eu de fièvre, rien.
D'accord.
Les enfants sont des petits-enfants de 2 ans, ils ont toujours la grippe. Là,
pas de douleur et pas de problème respiratoire non plus?
Non. À date, on n'a rien eu vraiment. On pourrait dire que c'est des symptômes. J'ai pas eu de toux, j'ai pas eu de fièvre. Ma question était la suivante, docteur Langlois. Est-ce que je pourrais, même après ma quarantaine, être porteur du virus sans le savoir?
Docteur Langlois?
Et pas avoir de...
Ben, on doit se fier sur ce qui est connu des temps d'incubation du virus. Donc, ça varie entre 5 et 14 jours pour commencer à manifester les symptômes dans plus de 95% des gens. Donc, si après 2 semaines, il n'y a pas de symptômes évidents, à ce moment-là, on peut présumer qu'il n'y a pas de virus. Toutefois, présentement, on continue à maintenir
l'éloignement
hein, social. Voilà, donc, on est presque tous en quarantaine présentement, là.
Ah, ça, c'est intéressant de le dire. C'est ça, c'est comme ça un peu qu'il faut voir la chose, docteur Langlois. On est presque tous en quarantaine, finalement.
Absolument. Moi, je travaille de la maison. Ma famille et mes enfants sont ici. On sort pour faire les épiceries puis pour les nécessités. On sort prendre des marches en famille, mais on évite tout contact jusqu'à temps que le pic de la transmission commence à redescendre.
En famille, mais pas forcément avec les voisins, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui m'écrivent, qui se disent que les petits amis jouent au hockey dans la rue en avant de la maison. Là, comme il y a des rues entières, là, tous les enfants jouent ensemble. Ça, là, en théorie, on fait pas ça.
C'est pas du distancement social. Ouais. Ça, c'est pas du tout du distancement social. Écoutez, c'est sûr que c'est désagréable, le distancement social. C'est du jamais vu de notre génération. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour essayer d'éviter de ralentir la transmission du virus puis d'éviter de surcharger les urgences avec de nouveaux cas.
Voilà. Michel, une question. Il m'écrit sur isabelle@985fm.ca. Il me dit, est-ce qu'on peut attraper le virus en consommant des fruits, des légumes qui ont été manipulés par des gens qui auraient été contaminés, qui ne le seraient pas et qui auraient donc mis sur ces surfaces, puisqu'on comprend là, que tout devient une surface potentiellement à risque que pendant un certain nombre d'heures. Et sur là-dessus, peut-être pouvez-vous nous renseigner, docteur Langlois, en termes d'heures, là, sur les surfaces, quelles qu'elles soient, combien de temps le virus peut-il être, entre guillemets, vivant, même si on sait qu'un virus, c'est pas vivant, là, c'est pas comme une bactérie. Bon, et puis aussi, sur les fruits, les légumes, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, là?
Bon, il y a des chiffres qui sont sortis pour la demi-vie du virus sur différentes surfaces. Mais il faut se rappeler que c'est dans des conditions de laboratoire contrôlées, des conditions où la température est contrôlée, l'humidité est contrôlée, le rayonnement UV est contrôlé, tout est contrôlé dans ces conditions-là. Mm-hmm. Donc, ces durées de vie-là qu'on voit, qui sont publiées dans les articles scientifiques, ça ne représente pas toujours ce qu'on voit sur le terrain.
Et sur le terrain, donc?
Sur un banc de parc, sur nos fruits et légumes à l'épicerie, sur des produits à la pharmacie. Donc, le virus peut survivre, on sait maintenant, il peut survivre jusqu'à 3 jours sur des surfaces dans des conditions optimales.
3 jours, OK. Donc, quand on va à l'épicerie, docteur Langlois, est-ce qu'on doit mettre des gants? Quelles sont les mesures de sécurité à prendre?
Ben, il faut présumer que tout ce qu'on touche peut potentiellement avoir été touché par quelqu'un d'infecté.
Parce qu'on nous disait il y a quelques jours, j'ai été surprise, là, on nous disait finalement, mettez pas de gants, là, parce que si vous touchez la figure après, ça nous avance pas. Fait que le gant, lavez-vous les mains plutôt plus souvent que de porter des gants. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument. Si on a le commis à l'épicerie qui porte des gants, puis est infecté, puis il touche le nez, il va transmettre le virus qu'il ait des gants ou pas.
Okay.
Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité, chacun de nous, que tout ce qu'on achète peut potentiellement être contaminé. Donc, quand on arrive à la maison, c'est notre responsabilité de décontaminer. Donc, des fruits et légumes, moi, je recommande à tout le monde, on prend un petit peu de savon à vaisselle, on nettoie nos fruits et légumes avec un petit peu de savon à vaisselle. Le savon à vaisselle, c'est l'idéal pour décontaminer les aliments.
OK. Le vinaigre, peut-il être utile? Le vinaigre, vous en pensez quoi?
Optimalement, c'est le savon.
C'est le savon, OK. Savon à vaisselle, ça c'est bon, savon à vaisselle, on retient ça. David...
Exactement, parce que c'est compatible pour la nourriture.
David revient de Floride, je pense, David. Bonjour, c'est votre conjointe hein, qui revient de Floride. Vous êtes ici, votre blonde revient de Floride. Là, vous voulez savoir comment ça marche, c'est ça?
Oui, bonjour, oui. Donc, effectivement, je dois aller les prendre ce soir, on va dire vers 19h. Donc, il y a ma conjointe et ma petite-fille de 7 mois. Donc là, on habite dans une 4,5. Donc j'aimerais savoir c'est quoi le meilleur scénario de confinement. Parce
d'accord.
Que,
on va y aller rapidement à la réponse parce qu'il nous reste 30 secondes avec le docteur Langlois. On vous écoute, docteur.
Donc, il y a quelqu'un qui revient
De Floride. Une mère et son enfant reviennent aujourd'hui de Floride. Le père veut savoir quelles sont les mesures à prendre. Ils vont tous être en quarantaine, 14 jours à la maison. Hein.
Exactement. Donc, si vous faites ça en famille, vous faites ça en famille. Vous restez, si c'est pas possible d'isoler les personnes qui arrivent toutes seules, à ce moment-là,
sinon, David peut isoler sa femme et son bébé dans une des pièces, puis lui reste celui qui va faire les courses. C'est un peu ça?
Ça peut aider, mais c'est toujours une question de logistique. Chaque domicile est différent. On essaye d'éviter le contact avec les autres individus autant que possible. Voilà. On essaie de garder ça à l'intérieur de l'unité familiale autant que possible.
Merci beaucoup, Dr. Marc-André Langlois, virologue. À tout de suite, tout le monde, après les nouvelles.